Petrus Borel, le Niaf. Le Niaf arrivé, le Niaf maître, le Niaf possédant un établissement est trop généralement répandu et trop à la portée de tout le monde pour que nous y appesantissions beaucoup. Ce n'est pas de cet enfant du siècle, bon lecteur, que nous avons à t'entretenir. Tu le connais de reste, ce débitant vulgaire, qui parle à la troisième personne, qui dit « Monsieur, veut-il ses bottes plus carrées? Que souhaite madame? Offrirai-je un siège à monsieur ?» Nature servile et bâtarde, polie par son frontement aux honnêtes gens qu'elle chausse. Épine dorsale flexible et docile, bouche assouplie, faite au mensonge et professant le mot flatteur. Non, ce n'est pas là l'objet de notre choix. Ce n'est pas là notre héros. Ce n'est pas là notre Ulysse. Notre Priam à nous, c'est le Gniaf, au cœur noble, à l'âme élevée, ombrageuse, qui, en dépit de toutes les sirènes de la corruption, s'est maintenu dans l'indépendance la plus absolue et la plus primitive. Celui-ci, que désormais nous appellerons pour le distinguer du Gniaf de commune espèce, Gniaf pur sang ou Angora, à la fierté de l'homme qui a la conscience d'une vie sans peur et d'une intelligence consommée. Celui-ci, c'est l'homme qui se dit « Je n'ai pas de reproche à me faire ». Sa contenance est froide, sa parole laconique, sa voix rauque pratiquée dans les cordes les plus basses. Celui-ci s'en va, grave et l'œil baissé, et se maintient modeste lorsqu'il se rend à la boutique du maître, car il faut bien le dire, cette grande âme travaille à façon, lui permet de supposer que les jambes qui marchent autour de lui ont des têtes dont le regard est fixé sur la belle ouvrage qu'il rapporte. Aussi, dans chaque bourdonnement, croit-il reconnaître un amateur étonné qui le poursuit et s'agite pour contempler le chef-d'œuvre enveloppé si habilement dans son mouchoir, pour contempler toute la splendeur et toute la perfection de sa déforme. « Oh, déforme !» La déforme, c'est le lustre que le Niaf ajoute à la besogne lorsqu'elle est terminée. « Que de mal tu donnes aux pauvres ouvriers ! » Déforme si belle, si polie, si flatteuse à voir, semelle que l'art même a cambrée. Talons si robustes et si sveltes, empeignes aux gracieux contours, je vous salue. Et moi aussi je suis amant de vos charmes. Et moi aussi, je m'attelle à votre char. Nous ne pousserons pas plus loin avant nos savantes investigations sur le Niaf pur sang, sur ce passereau solitaire, sur cet onagre indompté, sans parler un peu de son costume. De peur que la France ne suppose qu'à l'instar des gymnosophistes, il n'en a pas, qu'il ait tout visage, ce qui serait injuste et préjudiciable à son honneur. Si fait, par Dieu, notre homme est mis, parfaitement mis, au contraire. Et pour peu que vous y teniez, j'en puis faire une monographie qui enfoncerait les inventaires de M. Honoré de Balzac ou le testament de l'empereur. Redingote brune ou vert perroquet, manche démesurée, parement envahissant, collet petit et bas, formant balcon par derrière, revers fripés et recroquevillés comme un morceau de parchemin jeté au feu, la dernière boutonnière gigantesque, c'est la seule dont ils se servent, ce qui fait remonter sa redingote de telle façon qu'elle simule par devant un formidable estomac. Chapeau en tromblon, évasé ou gueule, d'espingole, vulgairement dit à ballon, col de chemise sciant les oreilles et enveloppant sa tête osseuse comme un cornet de papier enveloppe un bouquet. Au travail ou en demi-toilette, son pantalon n'est que de cotonnade. Les fonds en sont de peau et des mieux emprunts. Les genoux marqués et le bas, qui bat par derrière, forment comme le collet de sa capote le pied d'éléphant. Puis pour les grands dimanches et le bal, et dans le coin le plus discret de l'armoire, des bas bleus, des escarpins, opusum, et un pantalon de Nankin des Indes de Rouen. Puis encore, quelquefois, une véritable cravate brodée au coin, don précieux de son épouse encore timide fiancée. Il a reçu vers 1812 cette cravate adorée, et comme il s'en orne encore, vers 1840, hélas, elle n'est plus d'un tissu très compact, ni d'une éclatante fraîcheur. Lors de l'apogée de sa passion, à mort, fortisès si coûte morse, amour, amour, tu es courageux comme la mort, il se fit tatouer par sentiment. Au bras gauche brille sur son grand extenseur un cœur enflammé avec le chiffre d'Olympe et d'Onésime, deux os côte à côte, Olympe de son côté à deux mains qui se souhaitent le bonjour et deux pigeons qu'une trop vive tendresse emporte hors des limites du devoir. Sur son bras droit, où sa poitrine plane aussi, un aigle et le petit chapeau. Mais n'allez pas croire que ce fut autant des prospérités impériales que le gniaf se fit buriner ce symbole. Jamais le gniaf pur sang n'a salué le soleil et le vent. Jamais tyran dans sa pompe n'a trouvé grâce devant lui. C'est au malheur qu'il donna une larme. Ah, le dimanche encore, j'allais l'oublier, quand sa situation pécuniaire peut le lui permettre, le niaf se recouvre assez volontiers les mains afin de compléter sa transformation et de dissimuler son pouce détérioré par le tranchet. Le tranchet, périlleuse et perfide lame, crisse cangiard, yatagan du niaf, dont il lui faut faire le plus fréquent usage pour diviser et scinder. Arme terrible, instrument fatal, toujours de moitié dans ses projets, qu'il s'agisse d'une infidèle à punir, d'une botte à faire ou à porter. Cas bien rare, toutefois, car le niaf n'a qu'une passion extrême, celle de se regarder comme une intelligence colossale. Au septième, dans les combles, à 500 ou 600 pieds au-dessus du niveau de la mer, ou plutôt de la rue Maubuée, haut d'un escalier rapide et sombre, dont chaque marche usée par le temps, et Dax Rerum, grand mangeur de choses, est une espèce de casse-cou, dont chaque repos est marqué par quelques détritus, chaque palier par une gueule sans nom, mais non pas sans odeur, où chaque locataire, comme le dénonciateur dans les gueules de bronze du palais des Doges, vient déposer son secret. Le plus souvent à côté, tout au fond d'un étroit corridor, est situé le sanctuaire, l'aposento du gignaf. Une lucarne du genre, appelée chien assis, éclaire mystérieusement cet asile et plonge à 3 pieds de là sur un mur. Le plafond est en appentis, les solives sont apparentes, les parois peintes à l'ocre ou couvertes de papier à 10 sous le rouleau, des assorties déchirées et laissant voir çà et là les différentes teintures qui se succédèrent, et forment une couche épaisse par alluvion. Ces nombreux vestiges, du reste, ne sont pas sans quelque curiosité esthético-politique. On y suit pas à pas les périodes et les subversions si variées de ces derniers temps. Ici, c'est un semis de montgolfières ou de houlettes ornées de ramages roses et de moutons bleus. Là, des faisceaux de licteurs surmontés du bonnet phrygien, ou une montagne, emblème de l'autre, avec un marais croissant à ses pieds. Pour siège, il a des chaises réduites à l'état de tabouret. Le dossier, la paille remplacée par un morceau de cuir, creusé en timbales par la pesanteur spécifique de sa corpulence, épousant étroitement ses formes et luisant comme la cuirasse de Renault chez Armide. Un lit de bois peint, une commode à ventre, une horloge d'Auvergne, l'hiver un poêle de tôle où l'on peut faire bouillir l'eau nécessaire au ménage et cuire les ratates, vulgairement ratatouille, complète l'ameublement. Quant à l'hydrogène qu'on respire en se réduit, sans être un gay-lussac, il est facile de reconnaître un mélange d'oignons, de pois, de cuir et de plusieurs émanations que je ne saurais nommer, le tout sublimé par un excès de caloriques artificiels et humains. Nous avons vu notre Niaf épris d'une Olympe. Nous l'avons vu orné d'une épouse. Oh, n'y sois, qui mal y pense. Olympe était l'épouse prochaine. L'épouse, c'est l'Olympe passée. Le Niaf est sévère sur l'honneur. Il a des principes, il tient aux formes et c'est trop ce qu'on doit après à un amour éprouvé. Dans le modeste asile dont nous faisions tout à l'heure l'autopsie, c'est là qu'avec Olympe il coule des jours, si l'on s'en nuage, du moins égaux. Olympe était bordeuse. Il a connu en rendant de l'ouvrage, l'aima et la fit passer sous sa loi. La bordeuse, que quelquefois dans le métier par envie on appelle chamareuse, n'a d'ordinaire que son art, sa jeunesse et sa fleur, mais pour cela n'en est pas moins l'objet des plus tendres recherches. Le Niaf, pur sang, a le cœur trop bon gaulois pour jamais rien devoir à une femme. Une dot à ses yeux est un opprobre. Un mariage d'argent, une lâcheté. Il ne comprend, ce grand cœur, que l'union de la faim avec la soif. Dans son intimité avec madame son épouse, le Niaf Angora n'a pas les habitudes grossières du Niaf à échoppe, que nous aurons à peindre un peu plus tard. Il ne bat pas sa femme, et jamais l'étole de Saint-Crépin, le tire-pied, ne s'est transformée dans ses mains en une odieuse férule. De son côté, Olympe sait garder les distances, et ce n'est pas elle qui jamais s'oublia jusque-là de l'appeler pouilleux, de la voix ou du geste. Rentre-t-il aviné? Aux réprimandes de sa compagne, il se contente de répondre avec éloquence et d'un air d'Artaban. Songez à qui vous parlez, madame, taisez-vous. L'épouse doit obéissance et soumission à l'homme, car l'homme est son maître comme deux et deux font quatre. Ordinairement, au bout de chaque tirade semblable ou équivalente, il fait un carambolage, un faux pas et une chute, mais bientôt redressé sur une ou plusieurs pattes, plus glorieux et plus interminable que jamais, il reprend et pour longtemps sa période. Nota bene. Le Niaf Angora laisse sans défaut le plus saint commandement. Il ne croit pas et ne multiplie point. C'est encore un signe distinctif qui le sépare du vulgaire auquel il abandonne ce triste soin. Le Niaf possède d'accoutumance un apprenti ou un semainier qu'il domine de toute la hauteur de son expérience et de son génie. L'apprenti, personne n'en ignore. Quant au semainier, c'est un jeune ou un vieux garçon, ou plutôt un crétin, qui n'a pas assez d'intelligence pour faire un soulier à lui tout seul, et se met à la semaine pour coudre et faire le moins malin de l'ouvrage. Il y en a ordinairement deux dans la boutique du maître, employés aux basses fonctions, au raccommodage et à la peinture et décoration de la besogne achevée. Là, le semainier prend la qualification du gorret, corruption dérisoire du mot « correct », nom que porte dans plusieurs industries le chef des compagnons chargé des épures, et se divise en deux classes tranchées, le gorret à la pâte et le gorret coupeur. Le gorret à la pâte, que nous avons choisi pour l'un de nos types, et que M. Messonnier, ce jeune peintre du plus bel avenir a reproduit avec une vérité rare, appartient à une berloque de boueux, c'est-à-dire une boutique de bottier. Soit gorret ou apprenti, celui-ci a une vénération et une crédulité sans bornes à l'égard et au service de son maître. Il écoute, il acquiesce. De son côté, le Niaf ne fera pas une lisse sans la passer à sa galerie. « Regardez-moi ça » dit-il. Et dans ce « regardez-moi ça », il y a tout un monde de satisfaction et de noble orgueil. Entouré de tous ses ustensiles, Devant sa veilloire, aux petites tables basses et carrées, chargées d'ossements façonnés en outils, d'haleines, de clous, de sébiles, à sa gauche, son compagnon et le baquet de science, baquet plein d'eau pour détremper le gros cuir. À droite, son marteau, ses tenailles et la corbeille à mettre les soies et le fil, appelé caille-bottin. Le soir, éclairé mélancoliquement par un rayon pâle et lunaire qui lui renvoie le globe de cristal interposé entre lui et sa chandelle et qui s'épanouit sur sa couture comme un baiser de Phébé sur le front argenté d'Endymion. Notre patriarche travaille et chante en battant le cuir en cadence, laissant tomber sa dernière parole avec le dernier coup du marteau, ou quelquefois encore cause gravement du haut de sa philosophie. Tantôt il dit « Notre religion est absurde et bonne pour le peuple. La religion protestante, à la bonne heure, voilà une de religion. Ils adorent un cochon, c'est vrai, mais c'est plus naturel. » Et le jeune se meignait à chaque phrase du vieux maître de tomber en admiration. Tantôt il parle histoire, car sur toute chose le niaf a des notions précises. Et si le hasard veut que la conversation prenne une teinte Moyen-Âge, il dit que Notre-Dame fut autrefois, du temps des rois fainéants, un temple de druides, bâti par les huguenots sauvages. Il a des études linguistiques. Il trouve la langue française pauvre, pleine de contre-bon sens, et il en redresse les torts. Lorsqu'on est perclus de la main, il n'en veut pas qu'on dise « je suis estropié, mais estromain ». Et depuis 20 ans, il doit écrire là-dessus à messieurs de l'Académie. Le semainier lui demande-t-il l'origine et le sens du mot cordonnier ? Oh, il a sa leçon faite et répond sur le champ. Le roi, étant allé un jour prendre mesure de souliers chez son fournisseur, le niaf, lorsqu'il raconte, a toujours à son service grande profusion de rois. Il y oublia son cordon. À son retour au palais, le roi s'en aperçut et envoya aussitôt un de ses pages le réclamer. Le cordon fut nié, c'est-à-dire que l'artisan nia l'avoir trouvé. Ce fut en un mot un cordon nié. Le roi s'emporta et, dans sa trop juste colère, ordonna à dessein d'imprimer un sceau de honte indélébile et éternel sur le front de cet homme coupable, faisant payer à tous la faute d'un seul, qu'à l'avenir, en mémoire de ce délit, les confectionneurs de chaussures s'appelleraient cordonniers. Voilà ce que le niaf rapporte et croit de tout son cœur. Au fait, ceci vaut bien après tout une étymologie de Voltaire et de Ménage, ce docte imbécile. Mais souvent, mais le plus souvent, la conversation du niaf prend une couleur politique. Au jour d'aujourd'hui, dit-il, nous sommes trop éclairés pour que les jésuites et la féodalité puissent jamais rasservir le peuple. La féodalité, monsieur, savez-vous bien ce que c'était? Eh bien, monsieur, c'était le droit de cuissage. Négrophile comme monsieur Schœlcher ou feu monseigneur de Blois, l'abbé Grégoire, il regarde le nègre comme son prochain, noirci par les coups de fouet de son maître. Il veut que la civilisation enfin le savonne, et en pensant à toutes les infortunes de l'esclave africain, il pleure sur la cassonade qu'il mange et dans le café qu'il boit. À son sentiment, ce sont les bûchers que l'Inquisition a allumés en Espagne qui en ont fait à la longue altérer le climat et en ont fait un pays chaud. Le cordonnier passe pour brave. Mais pourquoi passe-t-il pour brave? Ceci vient tout à coup chatouiller vivement l'honneur de l'apprenti, et le niaf raconte alors, avec orgueil, qu'un jour Henri le Grand, Henri IV, examinant une liste de criminels, demanda qui ils étaient. Il y avait des maçons, des charrons, des couvreurs, des tailleurs, mais des cordonniers, point. Ce que voyant, le grand Henri s'écria : « Les cordonniers sont des braves !» Le mot se répandit encore, comme tout mot royal, et l'épithète de brave, depuis lors, leur en est resté. À ce récit, au dernier trait surtout, le semainier se renverse. Il est au comble, il étouffe d'admiration. Comment, se dit-il, tant de savoir peut-il entrer dans la tête d'un homme? Cependant, s'il y songeait un peu, quel croque en jambe cette anecdote ne donne-t-elle pas à l'origine du mot cordon nié? Mais le souvenir, nous l'avons dit, est un crétin. Il n'y regarde pas de si près. Les expressions du niaf sont en général des plus hautes régions de l'empiré. Les mots ronflants, inintelligibles pour lui et pour le plus grand nombre, ont à ses yeux un attrait indicible, un charme secret. Et parmi ceux-ci, il y en a toujours un à toute main qu'il affectionne et dont il use sans cesse. Tantôt c'est « catastrophe », tantôt « vesti sixtud », ou bien encore, à tout ce qu'il dira, à tout ce que vous pourrez dire, il ajoutera, c'est clair, « c'est un idiome ». Vise-t-il au polyglottisme, il s'écrie à tout propos et sans relâche « O tempores, o mora », car le niaf angora, le griaf pur sang, le niaf de la bonne roche, se donne obstinément pour avoir une légère teinture de latin. Dans son enfance, comme le roi Robert, il a chanté au lutrin de son village dans le duché de Bar, et il fredonne quelquefois encore de souvenirs « O cru navel espèce unica » Au crux à oué, spes unica. D'ailleurs, il a travaillé longtemps pour un collège, ou du moins à la porte. Hélas, lui aussi, il a eu à se plaindre des hommes. Lui aussi, jouet de l'ingratitude des peuples, il vit isolé, retiré, loin du tourbillon, comme Marion Delorme, comme Timon le lycanthrope, et limant le fer de sa bêche sur le champ aride des pierres du malheur. Lui aussi, il se renferme dans sa gloire et la triple ceinture de sa conscience. Lui aussi, inébranlable dans sa conviction et dans sa vertu, il regarde silencieusement passer en dessous de lui les événements humains, comme le colosse de Rhodes regardait passer entre ses jambes les flottes et les navires de haut bord. Dans ce dépouillement suprême, une seule religion lui reste, celle du journal. Une seule foi lui reste, la foi aux journaux. Il en lit en rendant son ouvrage, il en lit le dimanche, il en lit le lundi. Jamais il ne traverse le palais royal sans en dévorer beaucoup. Mais malheureusement, le plus souvent, sa pâture ne se peut guère composer que de vieilles gazettes ayant servi d'enveloppe à son marchand de crépins. Aussi, comme la goule du désert, pas de fait suranné, pas de pouf, pas de canard, pas de manne qui n'exhume. Plus les hommes et les choses sont à distance et hors de sa sphère, plus le niaf s'efforce de s'y intéresser. Cela, s'imagine-t-il, le grandit aux yeux du vulgaire. La mort de Cuvier, le grand anatomiste, l'affecta vivement. Cependant, tout compte fait, Cuvier n'est à ses yeux qu'un faible imitateur de Buffon. Sous l'Empire, il a eu les plus belles connaissances. Il déteste intimement Marie-Louise et porte au nu et dans son cœur Joséphine, dont la répudiation fut la boîte de Pandore pour la France. Il a remis un talon au prince Murat, mais il s'est refusé à remonter les bottes du vieux Blücher. Et il a vu de ses propres yeux vus le roi de Rome et monsieur Dupuytren. Il a de plus, qui dit, dit-il, beaucoup appris, beaucoup consigné et surtout beaucoup lu, monsieur de Voltaire, un grand sec avec des boucles à ses souliers. Corneille un peu, Racine idem, et il vous en sert des passages qu'il prend à rebousse-poil et qu'il écorche avec une rare sagacité. Toujours grandiose, toujours solennel, il se lève de sa chaise dépaillée comme Auguste de son trône et parle à son chien comme Britannicus à Junie. Aussi le peuple, à qui rien n'échappe, l'a-t-il surnommé pontife. Impossible de frapper plus juste et de peindre mieux. Et n'est-il connu dans le voisinage que sous le nom de Père Manlius ou de Bajazet ? Il s'en fait honneur. Gravissons un instant sur la colline populaire où le peuple souverain vient le dimanche et le lundi déposer sa misère et son sceptre. Bravons un instant l'odeur du vin d'Alain et de Campêche, le parfum douteux des gibelottes, les grincements des rebecs et pénétrons sans pâtir dans la sale cohue des tavernes. Là, nous retrouverons encore, si Dieu nous est en aide, réservé, mystérieux et sublime, notre héros dont le cœur saigne à la vue de la jeunesse moderne et de sa danse dégénérée. Oh, si quelquefois encore il se mêle aussi lui-même à un quadrille, croyez-le bien, c'est moins pour faire vis-à-vis à madame son épouse ou se livrer au plaisir que pour donner une leçon aux petits éventés du jour et faire une croisade en faveur de la muse Terpsichore, comme il dit. On annonce la pastourelle. Oh, voyez comme il se recueille avant de partir, comme il dessine et creuse profondément chaque pas, comme il sculpte chaque figure. Que de grâce, que d'érudition. Rien n'est omis. Pas de basque, jeté battu, rond de jambes, balancé entre chat et aile de pigeon. Oh, tenez, regardez comme il arrondit amoureusement la parabole d'un geste gracieux pour offrir la main à sa danseuse. On dirait, dirait M. de Pongerville, une nymphe émue se penchant pour cueillir un lys dans un vallon. Le bal ou le niaf s'est brillé de tant d'éclat est ordinairement un bal de noces où des relations honorables l'ont appelé. Et le plus souvent, il a lieu, comme en ce cas, à la barrière, à la garde-meure ou au cocardie. Après le Niafangora, mystérieux fantôme toujours enveloppé d'ombre et de solitude, dont nous avons essayé, peut-être les premiers, de soulever un coin du voile dont il recouvre et sa vie et son labeur et sa face morose, vient immédiatement une autre figure, non moins typique, mais plus connue, plus rebattue, plus vulgaire, plus exploitée, plus exploitable. Au lieu d'une vie à l'écart et ténébreuse, c'est le plein soleil que cette autre recherche. C'est la foule, c'est le passage, c'est le sable mouvant. Le carreleur, cordonnier rustique et ambulant, qui prend des goûts sédentaires, le semainier sur ses vieux jours, le niave vulgaire, mais hors d'âge et décrépit, fournissent le plus souvent le sujet en question. J'entends le niave à échoppe, le savetier. Celui-ci, pareil à l'hirondelle de bon présage, suspend son nid à toutes les murailles. Et il n'est pas de rue, de bord, de chemin, d'impasse, de voie, d'arche, d'égout, de redans, de recoin, d'allée, d'entrée de cave, de porte condamnée où il ne soit. Mais tandis que Progné ambitionne les hauts toits, les créneaux, la tourelle, l'aigle les pique pour son air, que la giroflée inonde le chaperon de ses parfums et de ses fleurs, lui, humble Iosope, timide fumetaire, pauvre Vergis mein nicht, il veut le pied du mur. Il habite à l'ombre de la borne et se mire dans le ruisseau. Et quel ruisseau, ô mon Dieu, que n'est-ce au moins celui de la prairie? L'échoppe dans laquelle se loge ce porte-balle parvenu ou cette royauté délabrée se compose communément d'une boîte dont l'un des deux côtés et le fond sont formés par la localité. Une porte latérale y donne accès, en hiver, un châssis de serre chaude, garni de vitres, de papier et de quelques carreaux de verre, clôt la devanture. La taille de l'édifice est au-dessous de l'humaine. Le pignon à hauteur d'estomac et, si par hasard, accompagnant du geste sa parole, Cet homme voulait dire avec feu, j'entends feu monsieur de Mirabeau ou feu monsieur Chassebœuf de Volnay. Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous, que sont-ils? Ou avec le bonhomme Richard, un manant sur ses pieds vaut mieux qu'un gentilhomme à genoux. Comme monsieur Victor Hugo, qui, selon notre ami Théophile Gautier, crève les plafonds de son crâne géant, il se briserait la tête en passant au travers et prendrait sa maison à son cou, comme dit Payas. Là-dedans, tantôt chaste Suzanne entre les deux vieillards, le savetier trône solitairement entre deux baquets de science. Tantôt heureux, époux, il dit à sa douce compagne, « Madame, cédez à dextris meis. » Quelquefois encore, le commerce est si bonne qu'il ne peut tout faire par ses mains, qu'il devient un grand producteur, qui se voit obligé d'exploiter son semblable, la classe la plus nombreuse et la plus pauvre, de boire la sueur de l'ouvrier, de s'engraisser de la substance du peuple. Et alors son auvent se remplit d'hommes à ses gages, de 1 à 3, rangés à la suite l'un de l'autre, en front de bandière, comme des marguilliers d'honneur sur leur banc. La légende qui avertit le bon passant de ce qui se consomme dans l'intérieur de cette hutte ne le cède en rien à l'ambitieux langage du maître du logis. On y lit pompeusement, non pas Courtin ou Lampaigne, savetier, mais au soulier mignon, N-I-O-N, à la bonne fleurie. Courtin confectionne en vieux et en neuf, ou bien encore, Lacombe et son épouse est cordonnier. Sur la surface intime de la porte se trouve, collé d'ordinaire, le juif Ferrand, et sa romance, d'où vient, dit-on, la phrase proverbiale des vieilles gouvernantes, « Il est sage comme une image collée à la porte d'un savetier. » Car le juif Ferrand, Isaac Lacédem, le vrai, celui qui passa à Bruxelles en Brabant en 1772, avant l'invention des cigares à 4 sous, non pas celui de M. Quinet, est une illustration du corps. Avant d'user ses souliers, ce grand criminel en faisait, et l'on voit au Livre Saint que ce fut du fond de son échoppe qu'il dit au fils de l'homme ce qu'un émeuble marseillais répond à qui lui demande sa route. Et c'est encore chez le Niaf à échoppe que se retrouvent dans toute leur virginité les plus antiques traditions orales ou autres. C'est lui qui porte encore imperturbablement la queue en salsifis. C'est lui qui s'enveloppe encore du tablier de peau de l'artisan gothique, s'attachant sur l'os sacrum à l'aide d'une agrafe de cuivre en forme de cœur. Ce qui fait dire au mauvais plaisant qu'il n'a pas le cœur au ventre. Toujours en manche de chemise et les bras nus, il est chauve ou il grisonne. Son nez procombant sert de monture à des besicles de baleines, et de bol froid, sans cesse aux prises avec un picotin de tabac, laisse fluer un bistre épais, dont souvent une goutte se suspend comme la goutte d'eau à l'extrémité de la stalactite. En butte aux plaisanteries générales, la pensée seule de cet homme éveille le sourire. Mais c'est surtout le plastron des gamins. Buffon l'a dit, Dieu a fait le hanneton et le savetier pour les délices de l'enfance. Il est sorte de mauvaises charges que le polisson ne pratique à son égard. A-t-il des vitres de papier, il passera la tête au travers de l'une pour demander l'heure. Il tournera doucement la clé laissée à la serrure et ira la planter un peu plus loin. Ici, ô de Lille, ô toi, grand Voltaire, que ne me prêtez-vous quelqu'une de vos admirables circonlocutions? Puis il reviendra, et, cognant au châssis, il en préviendra gracieusement le père Lampaigne. Que sais-je encore? Il y en aurait de ces fredaines de quoi faire un recueil plus gros que le chou colossal ou que les œuvres de Jouy. Il n'était pas rare, autrefois, de trouver une échoppe bâtie sur 4 roulettes. Mais ce genre de construction a été peu à peu tout à fait abandonné. Il prêtait trop à l'espièglerie. Soit donné, par exemple, que le père Courtin eut son échoppe dans la rue Basse, à la faveur des ombres de la nuit, des farceurs s'y attelaient et la traînaient jusque rue des Singes ou de l'Homme armé. Et le lendemain, quand le père Courtin revenait à sa place accoutumée, plus d'établissement, pas plus que sur la main, et le père Courtin demeurait confondu. Tel fut, ou du moins tel dut être jadis, ô sanglante catastrophe, l'étonnement des laitières de la banlieue d'Herculanum, quand, arrivant le matin pour vendre leur lait à la ville, elles ne retrouvèrent plus leur pratique et ne virent partout que néant. À propos du père Courtin et de ses nombreuses calamités, il n'y a pas bien longtemps encore, c'était, je crois, dans les derniers jours de la monarchie, que dans une petite ville du Midi se passa l'excellente aventure suivante qu'il serait bien difficile de ne pas vous redire comme nous l'a raconté. Le président X avait pour vis-à-vis, adossé sur le mur d'en face, une échoppe et son propriétaire inclusivement. Un jour que Madame la Présidente préparait un canard et que Monsieur le Président minutait auprès d'elle, dans le silence du cabinet, un arrêt fulminant, que dis-je, fulgurique, le savetier, son voisin, de son côté, chantait machinalement et d'un accent méridional une interminable rengaine ainsi conçue. Et quelquefois, par hasard, un petit morceau de bure, et quelquefois, par hasard, un petit morceau de bure. N'oublions pas que la scène se passe outre-Loire au beau pays de Gascogne. Quoique tout entier aux idées vengeresses qu'il occupait, Monsieur le Président ne pouvait défendre à ce chant d'arriver jusqu'à son oreille. Et ce chant le froissait, le traversait. L'absence de la rime en art l'obsédait. Chaque fois que le niaf en venait à dire pour la seconde fois « bure », il souffrait. Comme un son faux, cela lui déchirait le tympan, et pour mitiger le mal tout en écrivant « Attendu qu'il est temps, enfin, que la société obtienne un terrible exemple, attendu que de pareilles tentatives qui ne tendent rien moins qu'à renverser le trône et la pudeur, il ajoutait entre ses dents pour rimer avec hasard un petit morceau de lard. « C'est bien, mon ami, on en mettra du lard !» reprenait avec douceur Madame la Présidente. Elle croyait son époux préoccupé du canard qu'elle plumait. Et le savetier allait toujours son train, sans laisser arriver davantage la rime désirée. Monsieur De X, de plus en plus, et à son insu même, s'impatientait. « De larmes et de larmes !» répétait-il avec colère. Enfin, irrité à un tel point par cet éternel « si », c'est ainsi que se nomme encore vulgairement ces sortes de cadences suspendues, voire Hortense de notre ami Alphonse Car, que Dieu protège, tellement emporté hors de lui-même qu'oubliant tout à coup son caractère, sa besogne si solennelle et si lugubre, il se lève et s'élance sur son fusil de chasse qui se trouvait près de là et se penchant à la croisée, couche en joue notre inexorable chanteur. « Mais de lard, gredin, le diras-tu » lui crie-t-il. « Eh, monsieur, je dis comme je sais, j'ai jamais entendu autrement que voulez-vous. Mais de grâce, je vous en prie, ne me tuez pas. » Disant cela, le pauvre niaf, les mains jointes, s'était jeté à deux genoux. Devant tant de candeur et de bonhomie, Monsieur le Président resta désarmé. Depuis la voix que si cet homme n'avait mis fin à sa cadence, infailliblement il l'eût tué. Mais retournons à notre objet et disons vite notre dernier mot. Quand le niaf pur sang est devenu vieux, incapable et trop pauvre, il finit le plus souvent par la loge. Et alors vient-on demander à Olympe l'étage de quelques locataires, il répond par une forêt de phrases majestueuses ou par une brusquerie tout à fait dans le goût spartiate. Et tandis que l'étranger assommé monte l'escalier en marmottant entre ses dents, vieille brute, vieux dindon, lui de son côté se drape, enchanté de son beau langage, et se dit à part soi « Certes, voici un monsieur qui emporte de moi à coup sûr une grande opinion, qui doit se dire « Ce Suisse n'est pas un homme vulgaire, un concierge né, c'est une grande intelligence, développée encore par une éducation soignée, subtilée, principesque, mais déplacée par le destin et le malheur. » Puis enfin, un jour, il se meurt, mais très heureux, plein de lui-même et de ses idées, au fond, tout au fond de son antre. Il se meurt stoïquement, songeant avec quel regret amer, le lendemain, les maîtres cordonniers de Paris vont se dire « Hélas, l'habile cordonnier Onésime Clopinard a cessé de vivre. » Mais il ne songe pas, le pauvre infatué, le pauvre diable, heureux, mille fois heureux pour lui, que le titi du quatrième dira aussi, car tout panégyrique à son revers, « Ohé, 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 le père Chopinard, qui a fait sa crevaison, enfoncé le père Chopinard !» Au Moyen-Âge, les cordonniers se partageaient en plusieurs classes distinctes. Il y avait les cordouaniers, les basaniers, les savatiers ou savetonniers et les sueurs de vielle, nos savetiers proprement dit. De nos jours encore, la profession se divise en diverses et nombreuses catégories. Mais dans l'échelle des niafs, maîtres ou arrivés, le podophile occupe le premier rang. Le podophile, c'est le cordonnier du progrès. Le cordonnier avancé, jeune France, Lyon, néo-chrétien, artistique, palingénésiaque, annoncé dans les feuilles, célébré par la réclame. Pôle antarctique du cordonnier de Faubourg, ce gentilhomme a horreur du cuir et du clou, et c'est à lui que nous devons le soulier ou escarpin retourné à l'usage des gens de la haute, la botte sans couture ou entièrement cousue de soie, et le soulier de bal du poids de 2 onces, fait d'épiderme de sylphide ou de satin étolé. Les plus estimés de ces dernières chaussures doivent laisser pieds nus leurs porteurs à la première ou à la seconde contredanse, ou tout au moins dans le plus fort du ballet. Aux petits commis, aux provinciaux que l'œil de son ouvrage a attiré chez lui et qui lui font le reproche que ses bottes, quoique très chères, ne dure presque rien, le podophile répond « Vous êtes dans une erreur complète, messieurs. Mes bottes ne vous chaussent-elles pas à ravir? Mais vous voulez aller à pied avec ma marchandise et dans la rue? Cela, messieurs, ne se peut pas. Si ce sont des souliers pour marcher que vous souhaitez, je vous demande bien pardon, je n'en fais pas. » Comme nous l'avons vu, le bottier est appelé boueux par ironie. Mais celui-ci, en revanche, traite le cordonnier pour femme de chiffonnier. Le chiffonnier d'une propreté exemplaire et féminine est en général d'une constitution médiocre, tandis que le boueux, solide, robuste et sale, pratiquant un métier des plus durs, est au contraire une espèce d'Alcide armé comme un titan d'une barre de fer en guise d'astic et d'un formidable épieu pour forcer le bas de l'embouchoir sur l'avant-pied. On donne 6 à 9 francs de façon à l'ouvrier pour les bottes ordinaires. Pour les souliers de femme, le chiffonnier reçoit la somme de 9 à 55 sous. Malgré l'exiguïté de ce prix, il y en a qui arrivent, par une habileté prodigieuse, à se faire encore de fort bonnes journées. Au Conservatoire des Arts et Métiers, on voit une paire de souliers de Marocain dont le talon est à couche-point avec piqûre élégante et à côté de laquelle on lit « Le nommé André est parti de Paris le 6 du mois d'août 1822 à 2h30 du matin pour Saint-Germain-en-Laye où il a fait une paire de souliers. De là, il est allé à Versailles où il en a fait une deuxième paire. La troisième a été faite à Sèvres, et en arrivant à Paris, il a fait la quatrième paire au marché Saint-Martin. À 8h du soir, il est allé jouer la comédie, et de là à la société où il avait l'habitude de se rendre dans la soirée. En travaillant pendant 10 heures, il a confectionné 4 paires de souliers de femme d'une manière élégante et qui laissent peu de choses à désirer. On assure que dans une semaine, il a pu aller jusqu'à 71. Mais il faut avouer qu'on rencontrerait peu d'ouvriers aussi actifs que celui dont il est ici question. Quant aux souliers vernis, pantoufles et autres chaussures légères, cela se fait à la grande façon, c'est-à-dire en gros et chez des fabricants livrés absolument à ce genre et en possession de fournir les débitants. Il y a aussi des cordonniers à la grande façon qui ne travaillent que pour la province et la pacotille. Ceux-ci confectionnent et expédient dans les deux mondes des chaussures dites baraquettes, composées en général d'un peu de cuir et de beaucoup de papier. Il en est du reste de même de toutes les marchandises destinées aux Amériques. C'est toujours assez bon, dit-on, pour des sauvages. Et l'on emboîte à New York ou à Cuba des copeaux pour du vermicelle ou des manches à balai pour des fusils de munitions. Un monsieur haut employé, fort connu dans la capitale, et qui mérite de l'être à tous égards, avait, il y a quelque temps, un billet de 5 000 francs à toucher chez un niave du faubourg Saint-Marceau. Il s'y rend, mais ne croyant guère qu'il pût être payé. Arrivé rue de l'Épée de Bois, il cogne à lui d'une masure horrible et délabrée. Le niave se présente. « Que souhaite, monsieur ?» Il hésite, il regarde autour de lui, et voyant tant de misère, il n'ose lâcher le mot de sa mission. Après un long intervalle, après qu'il eut tourné 20 fois et sa langue et autour du pot, le niaffe, comprenant son embarras, lui dit « Oh, je vois ce que monsieur désire. Monsieur vient pour toucher le montant d'un petit effet. » « Et en effet, monsieur, de 5 000. »« De 5 000. Bien, monsieur, je vais vous satisfaire. » Premier étonnement du bourgeois. Le niaf passe dans une pièce voisine, ouvre un bahut, puis revenant, « Monsieur veut-il être payé en billets de banque, en argent ou en or ? Sauf le change, bien entendu, je suis à sa disposition. » Deuxième étonnement du bourgeois. Monsieur, comme il vous plaira. Tenez, si vous voulez, moitié argent, moitié papier. » Et la chose fut faite aussitôt à son gré. Troisième étonnement du bourgeois. Lequel dit alors au niaf, « Vous m'excuserez, monsieur, si j'ai montré d'abord quelque embarras, mais, soit dit sans vous offenser, je ne pensais pas, monsieur, qu'un homme de votre profession pût être à même de faire la pointe d'une aussi forte somme. Ah, mon cher monsieur, mais quelle est votre innocence? Croyez bien que je ne suis en aucune manière blessé, mais revenez de votre prévention. Il y a, sachez bien, beaucoup de gens de mon état, riches, parfaitement riches. Au métier que je fais, voyez-vous, monsieur, quand il plaît à Dieu, on gagne un argent fou. Nous achetons les vieilles chaussures qu'on jette à la borne, les savates, les lanières, les vieux chapeaux, le vieux papier à sucre ou à chandelle. Tenez, voyez, nous n'en manquons pas. » Il lui fit visiter alors toute la maison, qui en était comble du haut en bas, de la cave au grenier, et ce n'était que chiffon et savates. « Nous dépeçons tout ça, nous le rapprêtons, et en faisant des chaussures de pacotille, qui sont expédiés avec un grand bénéfice dans les colonies, dans les Indes. Voilà, monsieur, le savetier que je suis. On voit si bien long sur un sujet bien fade et bien roturier. Dieu veuille que le lecteur lassé ne s'écrie pas en achevant ce bavardage « Caligae Maximini », comme on disait autrefois à ceux qui étaient longs à compter les sornettes, faisant allusion aux souliers démesurés de cet empereur. Maximin avait 8 pieds de haut. Nous avons préféré pour le titre de cet article le mot niaf à tout autre, parce que c'est le cordonnier niaf surtout que nous nous sommes proposés de peindre. Puis aussi parce que le mot niafe, comme tout ce qui s'est greffé sur l'argot, nous a semblé plus populaire et plus expressif. L'étymologie d'ailleurs en est brillante. Ainsi que la plus grande partie du jargon des voleurs, ce terme est d'origine hellénique et vient du mot grec guapheus, cardeur ou peigneur, et dérisoirement racleur ou niafe, forme du guapho, raclé, anglais to gnaw, ronger, c'est-à-dire racleur ou ratisseur de vieux cuir. Envoi. Il y a en ce moment à Paris 40 000 ouvriers niafs, la plupart lorrains, barois, alsaciens ou allemands de nation. 6 000 maîtres et à l'usage de tout ce monde, 2 bureaux de placement. J'espère que le lecteur voudra bien me savoir quelque gré si devant une armée aussi formidable, j'ai su conserver ma hardiesse et mon franc-parler. Il ne faudrait pourtant pas non plus qu'il exagérât trop mon courage. Car le niafe, l'avons-nous dit, et pensons-nous l'avoir assez bien démontré, est un être peu dangereux de sa nature, plein de déférence pour la pratique, et tout à fait inoffensif à l'endroit de son semblable.